et bienvenue à ce deuxième webinaire sur la proposition de transition de supervision du rôle des fonctions IANA. Je suis Alissa et je suis responsable du groupe de coordination, donc l'ICG, pour la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Je suis ici avec Patrick Fostrum, également vice-président du groupe. Ce webinaire est enregistré et la séance de chat est également archivée, donc gardez ceci à l'esprit. Nous avons une audio en 6 langues des Nations Unies ainsi qu'en portugais. Tous les détails sont disponibles dans l'application Adobe. Nous allons commencer par 45 minutes de présentation, suivi par 45 minutes de questions-réponses. Nous vous demandons de ne pas poser vos questions avant la fin de la présentation, de les réserver pour la partie questions-réponses. Vos micros seront mis sur silencieux pendant la partie présentation. Pendant la partie questions-réponses, vos questions seront acceptées soit par chat, soit par audio. Les consignes pour poser les questions sont dans la petite fenêtre du chat Adobe, mais nous les passerons en revue de toute façon à la fin de la partie présentation de notre appel. Ceci étant, je crois que nous sommes prêts à commencer. Donc, ce que nous allons passer en revue aujourd'hui pour commencer, c'est en fait une présentation à un très haut niveau de la IANA et de la transition de la supervision du rôle des fonctions IANA. Et ensuite, je repasserai la parole à mon vice-président qui parlera de la proposition sur la transition. Nous parlerons donc des questions que l'ICG a publiées pour la période de consultation publique. Ensuite, nous parlerons de comment soumettre des commentaires et ensuite, nous passerons à la partie questions-réponses. Donc, pour commencer par le commencement, nous allons vous présenter un petit peu les fonctions IANA. Que sont-elles? Pour ceux d'entre vous donc, qui ne connaissaient pas bien ce que c'est que cette fonction IANA, cette autorité chargée de la gestion de l'adressage sur l'Internet. Il y a donc dans l'Internet des bases de données que nous appelons des registres. Ce sont en fait les noms, les numéros uniques que les ordinateurs utilisent pour entrer en lien sur l'Internet. Donc lorsque vous êtes sur le web, lorsque vous envoyez un email, lorsque vous naviguez, vous avez un envoi de noms et de numéros entre les ordinateurs pour qu'ils puissent communiquer sur l'Internet. Il y a 3 catégories de noms pour ces registres. Premièrement, les noms de domaine, en fait les noms. Deuxièmement, les numéros. Et troisièmement, les paramètres de protocole. Et donc, nous allons détailler ce que chacun de ces registres contient un peu plus tard dans la présentation. Le fait de l'administration de ces registres, c'est ce qu'on appelle les fonctions de l'IANA. Donc, lorsque nous parlons des fonctions de l'IANA, en fait, nous parlons d'une tâche cléricale, d'une tâche de gestion. La définition des politiques par rapport aux valeurs qui vont entrer dans ces registres, en fait, décider de ce qui va dans ces registres ne fait pas partie des fonctions de l'IANA. C'est quelque chose d'externe qui sort du cadre de travail de l'IANA. Pour bien comprendre le contexte de la transition, nous devons comprendre comment le modèle actuel de supervision fonctionne. Donc si on revient en arrière dans le temps, si on revient à 1998, l'ICANN a été établie comme société pour attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet et pour administrer les fonctions de l'IANA dans le cadre d'un gouvernement avec le gouvernement américain. Donc il y a un département au sein de l'ICANN qui s'occupe de la gestion de ces registres. L'entité gouvernementale au sein du gouvernement américain s'appelle la NTIA, l'Agence nationale des télécommunications et de l'information. Et donc, cette agence fait partie du département du commerce des États-Unis. La NTIA a donc un contrat avec l'ICANN et donc fournit une supervision du travail de l'ICANN et de l'IANA au sein de l'ICANN. Le rôle de la NTIA est un rôle de supervision ou de surveillance. La NTIA n'a pas un rôle opérationnel et donc ne change pas les registres que l'IANA gère. Donc, si on avance dans le temps, on arrive à 2014, et donc, ce qui s'est passé, c'est que la NTIA a annoncé la transition de ce rôle de supervision, et donc, cette transmission du rôle va se faire à la communauté de l'Internet. Donc, il a été demandé à l'ICANN de développer un processus, de proposer un processus de transition. Il y a certains critères qui ont été énoncés par la NTIA par rapport à cette transition. Les critères sont les suivants. La proposition de transition doit soutenir et améliorer le modèle de multipartite. Elle doit entretenir la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS. Elle doit correspondre aux besoins et aux attentes des clients au niveau international et des partenaires des services IANA et entretenir le caractère ouvert de l'Internet. Donc, les attentes de la NTIA, c'est que la proposition doit être appuyée par la communauté d'une manière large et ne doit pas remplacer le rôle de la NTIA par une solution gouvernementale ou intergouvernementale. Donc, tout le travail qui a été investi dans la proposition dont nous allons parler aujourd'hui a été défini par ces critères, par ces attentes. Et donc, c'est sur la base de ces critères, de ces attentes, que la proposition a été élaborée. Alors, si nous considérons le calendrier depuis l'annonce de la NTIA, qui donc a été énoncée en mars 2014, donc peu après, l'IANA a mis en place le groupe de coordination pour la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. L'ICG est composé de 30 membres et de 3 liaisons qui représentent de multiples parties. Nous avons les parties prenantes de la communauté opérationnelle, c'est-à-dire les intérêts relatifs au nom, au numéro et aux paramètres de protocole. L'ICG inclut également d'autres parties prenantes de manière plus large, donc les entreprises et d'autres communautés. Depuis septembre de l'année dernière, l'ICG a émis une demande, un appel à proposition des différentes communautés et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est en fait la combinaison des propositions qui ont été reçues par l'ICG de la part de chacun des groupes. Et nous allons d'ailleurs passer en revue chacune des propositions. Mais ça, c'est un élément important dans la structure. Donc, il y a une proposition combinée. La période de consultation publique qui a été lancée en juillet se focalise sur la proposition dans son ensemble. Chacune des propositions des différents groupes a déjà fait l'objet d'une consultation publique. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de discussions qui ont eu lieu avec plusieurs périodes de consultation publique, plusieurs appels de conférences qui ont parlé des détails et des différents éléments qui composent les 3 propositions. Suite à la période actuelle de consultation publique, l'objectif est vraiment de voir si tout est bien combiné, si tout correspond d'une manière générale aux critères de la NTIA. S'il y a des commentaires spécifiques, par exemple, à la question opérationnelle, eh bien, ces commentaires seront renvoyés à la communauté opérationnelle. Nous fournirons davantage de détails sur les questions spécifiques par rapport à la période de commentaires à la fin de la session. Ceci étant, je vais passer la parole à Patrick Forstrom qui va parler de la proposition sur les noms. Merci beaucoup, Anissa. Patrick Forstrom au micro. Donc, si nous considérons la proposition sur les noms, qui est donc délivrée par une des 3 communautés opérationnelles, on peut commencer à considérer ce à quoi correspondent les fonctions YANA par rapport au nom. Le système de nom de données est composé de deux choses. Il y a la question de la gestion des noms de domaine et puis du point de vue opérationnel, l'utilisation du système de noms de données. Alors, les fonctions YANA touchent aux deux, mais ce qui est le plus important, c'est donc la gestion de la zone racine et la question de la gestion des noms de domaine de premier niveau. Et donc, les trois exemples que vous avez de ces noms de domaine de premier niveau, vous les avez donc à l'écran, et c'est ce qui ensuite donne lieu à la délégation. Pour la plupart, les changements, les actions de l'YANA sont liées à des demandes des membres de la communauté des noms. Par exemple, des demandes de changement d'opérateur, d'un nom de domaine de premier niveau, changement de coordonnées, changement de configuration technique, à savoir quel est le serveur de nom qui gère telle ou telle requête sur le TLD, ainsi que d'autres informations relatives aux noms de domaine en eux-mêmes, donc par exemple ce qui est dans le WHOIS par rapport à ce TLD. Donc, les demandes de changement sont faites auprès de l'YANA et l'YANA donc, gère les différentes bases de données. En ce qui concerne certains des changements qui sont gérés par l'YANA, eh bien, il y a donc la gestion des demandes de changement à la zone racine. Ça peut être des changements à la base de données de WHOIS, donc par exemple un TLD, un changement de contact d'un TLD. Ils ont également trait à la délégation et à la redélégation des TLD en eux-mêmes. Si par exemple les registres enregistrent un changement à ce niveau. Et puis il y a aussi des questions opérationnelles liées à la zone racine. Par exemple, la gestion des clés, la question de la signature pour le DNSSEC. Et puis il y a la gestion du référentiel des pratiques IDN. Donc, par exemple, si deux TLD utilisent un enregistrement dans la même langue, eh bien, il y a un référentiel qui existe. Il y a aussi d'autres activités liées à la zone racine qui sont gérées par l'YANA. Tout ceci est très important, mais bon, c'est ce qui est le plus connu dans le cadre des fonctions de l'YANA. Alors, pour ce qui est des changements de la proposition en elle-même, si vous regardez la supervision actuelle, vous voyez qu'il n'y a pas d'information sur la question opérationnelle, sur le côté opérationnel des activités. Et donc, vous voyez que l'YANA a un contrat avec l'ICANN qui stipule comment fonctionne la supervision. Donc la NTIA a une fonction de supervision sur l'ICANN et à l'intérieur de l'ICANN, il y a un groupe spécifique, le groupe YANA justement, qui s'occupe de toutes les actions qui sont stipulées dans ce contrat. Donc, lorsque certaines parties souhaitent que l'YANA fasse telle ou telle chose, eh bien, c'est au sein de l'ICANN que le contact se fait. On contacte l'YANA et l'YANA, donc vous voyez qu'elle est représentée en bas dans le grand cadre de l'ICANN. Une fois que le contrat avec l'ANTIA aura disparu, eh bien, il n'y aura plus de supervision. Donc, vous avez à droite la proposition et vous avez une séparation juridique qui existe. Et donc, il y a le PTI qui entre en jeu et qui va s'occuper des fonctions YANA. Il y a donc un contrat qui va exister entre l'ICANN et le PTI et qui explique ce que doit faire le PTI. Il y a les clients qui vont donc contacter le PTI pour demander quelles sont les fonctions à mettre en place. Et puis vous avez l'IFR qui aura la fonction de supervision ainsi que le CSC qui par certains mécanismes vont permettre de remplir cette fonction. Si vous regardez le PTI, vous voyez qu'il y a une séparation avec l'ICANN. Et donc l'idée, c'est de mettre en place toutes les fonctions qui étaient mise en place par l'IANA par le passé. Donc le PTI va être la nouvelle entité qui s'occupe des fonctions IANA. L'entité suivante, qui est importante, c'est donc le comité de clients permanents. Et donc ce comité va s'assurer que les fonctions de l'IANA continuent d'être effectuées de manière satisfaisante. Il va prendre en considération les différentes actions de l'IANA, va s'assurer que l'IANA travaille de manière adéquate. C'est en fait un comité qui représente les clients de l'IANA. Il y a également une autre entité séparée qui s'appelle l'IFR, donc révision des fonctions de l'IANA, qui, lui, va effectuer des révisions périodiques pour s'assurer de la responsabilité, de la qualité du service. Donc c'est une supervision un peu plus générale de l'ICANN et du PTI pour s'assurer que les choses sont faites de manière acceptable. Il y a également un autre IFR spécialisé qui a la possibilité, en cas de séparation totale des fonctions de l'IANA de l'ICANN, donc de s'occuper des fonctions techniques. Tout ceci, bien sûr, dépend de l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN. Et il y a un groupe constitutif au sein de l'ICANN qui s'occupe spécifiquement de la responsabilité. Donc il y a des dépendances entre ces propositions. Et donc vous voyez ici certains de ces critères. Il faut qu'il y ait coordination entre la proposition CWG ainsi que le travail qui a été fait en parallèle avec ce que fait l'ICG et le CCWG responsabilité. Donc si vous regardez ces différents points, par exemple, vous avez certains changements qui peuvent être apportés au statut de l'ICANN. Vous avez par exemple l'habilitation de l'IFR à déterminer le processus de séparation. Et puis vous avez l'exemple du panel de révision indépendant qui est lié aux fonctions de l'IANA. Donc par exemple, il y a des clients directs qui auront des problèmes éventuels référés par le CCNSO, la GNSO, qui pourront donc avoir accès à un panel de révision indépendant. Donc il y a beaucoup de mécanismes indépendants qui permettent de vérifier comment fonctionnent ces dépendances entre les différents groupes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la proposition sur les noms. Ça y est, voilà la diapositive suivante. Alors, si vous regardez le CCWG et le CWG et leurs différentes propositions et les dépendances, la façon dont nous gérons tout ceci, c'est que nous avons maintenant une période de consultation publique avec l'ICG, donc en même temps que celle de l'ICG, donc, les deux périodes de consultation publique se feront en même temps. Donc, il y a possibilité, justement, de considérer les deux propositions pour s'assurer que les commentaires sont synchronisés. Et donc, on peut ainsi s'assurer que tout est coordonné. Et on peut, d'ailleurs, faire des commentaires sur les deux propositions en même temps. Ceci étant, je vais passer la parole à mes co-présidents pour la suite de la présentation. Mohamed, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Allez-y, Mohamed. Mohamed El-Bachir au micro. Donc, je vais passer en revue la proposition sur les numéros. Donc, la NTIA a des fonctions importantes à mettre en place pour la communauté et qui est donc l'attribution de blocs d'adresse, de nom, de numéro aux registres Internet régionaux. Et puis, il y a également l'enregistrement des attributions de registres de numéros de l'IANA. Et il y a d'autres tâches de gestion de registres, ainsi que l'administration des zones de DNS qui sont prises en compte. Donc, pour présenter de manière générale la proposition sur les numéros, actuellement, les 5 registres Internet régionaux, donc Amérique du Nord, Amérique latine, l'Europe, ainsi que le Moyen-Orient, l'Afrinique donc pour l'Afrique, et l'ACNIC pour... APNIC pour l'Asie-Pacifique. Donc actuellement, ils ont des accords, des conventions de service avec l'IANA. Et il y a supervision avec la NCIA pour l'ICANN. Donc, les RIR ne pensent pas que les fonctions doivent être retirées de l'ICANN. Ils ont exprimé leur désir pour la stabilité. Donc, ils n'ont pas proposé de changement opérationnel. Mais ils ont souligné 3 facteurs importants dans leur proposition. Premièrement, le fait que l'ICANN doit continuer à être en fait le lieu où les fonctions de l'IANA sont mises en place. Ils souhaitent qu'il y ait des conventions de service qui régissent ceci. Et puis, il y a la question des droits de la propriété intellectuelle. Et donc, ceci doit être remis à la communauté. Et enfin, il y a la question d'un comité de révision. Donc, ceci a été proposé par les RIR, la communauté des RIR. Donc, ce comité devra être formé sur la base des performances IANA au niveau du service. Donc, vous voyez à droite la proposition après la transition. Vous voyez donc que les RIR ont une relation par le biais d'une convention de service avec l'IANA, donc au sein de l'ICANN, et donc ils souhaitent que cette convention de service soit donc maintenant sous la supervision d'un comité de révision. Alors, diapositive suivante, vous voyez ici le comité de révision qui en fait représente les différents RIR, qui donc fournissent une consultation aux RIR. Et les RIR, eux, ont une évaluation de la révision. Il y a certains principes de base pour ces conventions de service au sein de l'ICANN, de l'IANA. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait une séparation du côté opérationnel, une séparation entre les politiques et le rôle opérationnel. Il faut aussi qu'il y ait une description des services fournis par les RIR. Il faut qu'il y ait une obligation de signalisation, une obligation de rapport sur les questions, sur la transparence et la responsabilité. Bien sûr, la sécurité est importante pour les RIR. Ils ont également indiqué que les conventions de service doivent comporter une révision des opérations des fonctions de l'IANA. Et s'il y a un problème de performance, eh bien, il faut qu'il y ait des conditions et éventuellement une résiliation. Il faut qu'il y ait continuation des opérations. Et puis, en termes de droit de la propriété intellectuelle et de droit sur les données, tout ceci doit être très clair et explicité dans le contrat de l'ICANN. Résolution des conflits, tout ceci doit faire partie du SLA. Et tout ce qui est relatif aux frais doit également être inclus. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, la proposition a défini certaines attentes, la proposition des RIA définit certaines attentes. Ils ont indiqué que les registres de ressources de numéros doivent être publics. Les informations non publiques, doivent être gérées par l'opérateur de l'IANA et ceci doit être rendu disponible et transférable si quelque chose se passe au niveau des fonctions IANA. Donc il faut qu'il y ait un successeur qui soit défini pour la transition. Et les droits aux informations non publiques doivent être transférés au RIR. En ce qui concerne la marque de commerce IANA et le domaine, ceci doit être transféré au Trust IETF. Et toutes les parties sont d'accord pour dire que ces attentes doivent faire partie de la transition. Je vais maintenant passer la parole à Alissa qui va continuer la présentation. Merci Mohamed. Alissa au micro. Donc nous en sommes à la troisième composante sur cette proposition de transition et je vais parler des paramètres de protocole. Alors pour bien comprendre les paramètres de protocole, il faut déjà parler des protocoles en eux-mêmes. Que sont-ils ? Eh bien, ce sont des moyens standardisés de communication que les ordinateurs utilisent sur l'Internet pour pouvoir communiquer. Vous connaissez sans doute le HTTP, le IP. Ce sont en fait des moyens de communication pour les dispositifs. Donc, lorsqu'on conçoit des protocoles, il faut qu'ils correspondent à certains paramètres, ce sont en fait des numéros, des valeurs qui doivent être choisis et publiés de manière à ce que deux ordinateurs séparés qui utilisent un protocole puissent communiquer et se comprendre. Alors, pour donner un exemple de cela, vous vous êtes peut-être un jour rendu sur un site web et vous avez pu recevoir une erreur qui s'appelle l'erreur 404 not found, non trouvé. Le protocole 404, c'est le protocole d'erreur pour le HTTP. C'est un chiffre qui a dû être choisi, pour que lorsqu'un logiciel se rend sur l'Internet, il puisse comprendre « Ah, ceci représente une erreur ». Et donc, du côté web, il faut que le web comprenne « Ah, je dois envoyer une erreur ». Je vais donc choisir le 404. Donc c'est ça un paramètre de protocole. La plupart des protocoles les plus importants qui composent l'Internet ont été mis au point par l'IETF, le groupe de travail sur le génie Internet. C'est en fait la communauté opérationnelle qui est responsable de ces paramètres de protocole. Les paramètres de protocole de l'IETF sont entretenus dans des registres sur le web, sur le site de l'IANA, et il y a plus de 10 000 registres de paramètres de protocole qui contiennent des centaines de milliers de paramètres de protocole. Et donc, une distinction importante en ce qui concerne les paramètres de protocole, ils ne sont pas référencés en temps réel sur le site IANA. Lorsqu'ils sont référencés, c'est en fait au moment où les logiciels sont élaborés. Donc, en tant que développeur, par exemple, je vais me rendre sur le site IANA pour savoir quel est le code, quel est le numéro dont j'ai besoin dans mon application, de manière à ce que les choses fonctionnent correctement lorsque j'utilise sur Internet. Donc, voilà un peu à un très haut niveau ce à quoi correspondent les paramètres de protocole. Si on considère la situation actuelle, en ce qui concerne la supervision des fonctions, des paramètres de protocole. Encore une fois, il faut revenir un petit peu en arrière dans le temps. Donc l'IETF avait un accord, ou a un accord qui existe depuis plus de 15 ans, qui est le MOU, donc le protocole d'accord, qui gouverne la relation entre l'IETF et l'IANA. Il existe une entité qui s'appelle l'IAB, donc qui est en fait le Conseil de l'architecture de l'Internet, qui s'assure en fait que la relation entre l'IETF et l'IANA reste bonne et correspond à ce protocole d'accord. Et donc, de temps à autre, il y a des mises à jour pour établir les cibles de performance de l'IANA. Donc, il y a une évaluation au jour le jour de la performance de l'IANA, à savoir si les cibles établies dans la convention de service sont respectées. Donc, c'est ce qui existe actuellement en termes de supervision. Et donc, on voit que le contrat de la NTIA fournit une supervision à l'ICANN et la NTIA n'a pas vraiment de rôle opérationnel en termes de paramètres de protocole. Si vous regardez à la proposition de transition et à quoi correspond la supervision pour l'avenir, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule chose qui a changé dans le diagramme, c'est que la NTIA n'est plus là. Donc voilà un petit peu ce à quoi correspond cette proposition. Depuis la création de l'ICANN, l'IETF, l'ICANN et l'IAB ont créé un petit peu un système qui couvre déjà ce qui est nécessaire dans cet espace. Le système fonctionne bien, sans implication de la NTIA, en tout cas au niveau opérationnel. Donc l'IETF a simplement dit que les registres de paramètres de protocole devraient pouvoir continuer de fonctionner au jour le jour comme ils le font depuis longtemps. Et l'IETF est tout à fait satisfait du fonctionnement actuel de l'ICANN. Donc il n'y a pas vraiment de changement à apporter ici. Cependant, lorsqu'il n'y aura plus de contrat avec la NTIA, l'IETF a quand même demandé à ce que certaines dispositions soient prises pour s'assurer que la communauté IETF voit certaines attentes respectées. Premièrement, il faut les registres de paramètres de protocole fassent partie du domaine public. Deuxièmement, plus tard, en cas de transition à un autre opérateur, eh bien, il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées dans cette transition. Et donc l'ICANN est d'accord. En cas de besoin de transfert à un autre opérateur des fonctions de l'ICANN, eh bien, pour que ceci se fasse en collaboration. Les différentes parties travailleront ensemble avec les opérateurs de registre pour minimiser les impacts dans la structure. Donc, au cas où, à l'avenir, un autre opérateur serait choisi pour s'occuper des registres d'opérateurs de paramètres de l'ICANN. Donc voilà un petit peu un résumé général de la proposition. Je vais donc repasser la parole à Mohamed qui va nous donner une synthèse de ce dont nous venons de parler. Mohamed au micro. Merci Alissa. Donc sur cette diapositive, vous avez un petit peu un résumé général, visuel, des différentes propositions. Donc, vous voyez la proposition des noms, vous avez les RIR en haut, donc c'est la proposition des noms, les RIR qui ont une convention de service avec l'ICANN, ainsi que le comité de révision des RIR qui a un rôle consultatif auprès de la communauté des numéros en ce qui concerne les fonctions. À gauche, vous avez l'IETF et la communauté des paramètres de protocole avec l'ICANN. Donc vous avez le conseil sur l'architecture de l'Internet et son lien avec la CAN, avec une révision annuelle, une mise à jour annuelle sur la base de mesures de performance. À droite, vous avez la proposition de la communauté des numéros qui, en fait, comporte plus de changements que les autres communautés, puisqu'il y a la séparation juridique, il y a la nouvelle entité, la PTI, donc, Liana après transition, et donc la communauté des numéros utilisera le comité permanent des clients pour superviser les fonctions, pour s'occuper de toutes les plaintes, de tous les problèmes qui pourraient se présenter. La communauté des numéros a également proposé l'institution d'une révision des fonctions IANA, l'IFR, qui s'occupera donc de superviser les fonctions IANA. Donc, d'une manière visuelle, vous avez là sur cette diapositive un aperçu général des relations entre les trois communautés, ainsi qu'un aperçu de l'avenir des fonctions IANA au sein de l'ICANN. Donc, la diapositive suivante va vous donner un aperçu des questions qui ont été proposées pour commentaires par rapport à la proposition combinée. Donc, la focalisation ici est de donner des commentaires sur la proposition dans son ensemble. Donc, nous avons un ensemble de questions qui vous permettront de guider votre réflexion. La première chose, c'est déjà de savoir si vous pensez que la proposition combinée est complète. Est-ce que les propositions de la communauté opérationnelle fonctionnent bien ensemble au sein d'une proposition unique? Pensez-vous que les propositions de la communauté opérationnelle, une fois rassemblées, incluent des mécanismes appropriés et adéquatement soutenus et indépendants de responsabilité pour la gestion des fonctions IANA? Et est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes en termes d'opérabilité entre les propositions? Est-ce qu'il y a peut-être des conflits ou des préoccupations que vous avez, des problèmes éventuels lorsqu'on prend tout en considération? Et puis, il est également intéressant pour nous de savoir quel est votre point de vue sur la proposition en ce qui concerne les critères de la NTIA. La NTIA a fait son annonce en avril dernier et a fourni certains critères. Et donc, par exemple, pensez-vous que la proposition combinée appuie et favorise le modèle multipartite et le fera à l'avenir? Pensez-vous que il peut y avoir des questions ou des problèmes en ce qui concerne la sécurité, la stabilité et la résilience du DNS? C'est une question critique pour l'ICG. Donc, nous sommes intéressés par vos commentaires là-dessus. Et pensez-vous que la proposition corresponde aux attentes des clients et des partenaires internationaux des services IANA et du DNS? Et donc, d'une manière générale, nous souhaitons savoir si vous pensez qu'il y a des lacunes dans les propositions. Nous souhaitons également savoir si ce que vous pensez de la proposition convenue, à savoir si elle entretient la nature ouverte de l'Internet. C'est une valeur fondamentale et donc nous souhaitons que ceci soit considéré pour l'avenir. Avez-vous des inquiétudes par rapport au remplacement du rôle de la NTIA par une solution contrôlée par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale? Et enfin, pensez-vous que la mise en œuvre de la proposition continuera de respecter les critères de la NTIA à l'avenir? Donc, nous vous demandons vraiment de revoir la proposition, de fournir vos commentaires et de nous dire soit si vous appuyez la proposition, si vous êtes d'accord, soit de nous faire vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Nous pouvons donc commencé, nous avons commencé cette période de consultation publique le 31 juillet et elle se terminera le 8 septembre. Vous pouvez donc soumettre vos commentaires sur le site web comments.ianacg.org. Et si vous avez des questions que vous souhaitez soumettre, eh bien vous pouvez le faire sur questions-cig@iana.org. Donc je vais ensuite passer la parole à Alissa pour la partie questions-réponses de notre appel. Alissa au micro. Merci Mohamed. Juste une petite note. Nous venons de nous rendre compte que l'adresse email sur la diapositive est fausse. Nous allons donc corriger ceci. En fait, l'adresse email c'est question-icg@ianacg.org. Donc désolé, c'est une erreur, nous allons corriger ceci. Jennifer vient de le mettre dans la fenêtre chat. Elle vient d'indiquer la bonne adresse dans la fenêtre chat. Donc si vous avez une question, vous pouvez utiliser l'email que Jennifer a mis sur le chat. Alors, autre question, autre point par rapport à la façon de soumettre les commentaires. Vous pouvez soit utiliser un formulaire web que vous pouvez trouver sur le site web. Vous pouvez envoyer vos commentaires par email. Et quelle que soit l'option, lorsque vous soumettez votre commentaire, vous allez recevoir un email de confirmation. Vous devez donc cliquer sur le lien de confirmation pour que votre commentaire soit publié dans les archives publiques. Donc voilà un petit peu comment nous avons structuré la consultation. Je crois que nous sommes prêts à passer à la partie questions-réponses. Je voulais simplement, encore une fois, confirmer un des points dont a parlé Mohamed. Lorsque vous soumettez des commentaires, il est important du point de vue de l'ICG d'avoir à la fois les points de vue qui sont pour la proposition et les points de vue qui apportent ou qui ne sont pas d'accord. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion. Nous avons besoin de savoir si les gens sont d'accord également. Ce n'est pas uniquement les questions et les commentaires négatifs qui nous intéressent, mais aussi nous avons besoin de savoir si les gens sont d'accord. Alors, ceci étant, nous allons passer à la partie questions-réponses du webinaire. Donc, pour cette séance de questions-réponses, nous prendrons vos questions soit par audio, soit dans le chat. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main dans la salle Adobe Connect en utilisant la fonctionnalité de main levée sur Adobe. Et l'autre option, c'est donc de taper votre question dans le chat. Alors, nous vous demandons, avant de taper votre question, d'écrire le mot « question », de préférence en lettres majuscules, pour être sûr de bien la repérer. Nous passerons en revue les différentes questions dans le chat, dans l'audio. Et s'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer dans d'autres langues, nous pouvons également écouter vos questions dans votre propre langue, dans votre ligne, donc française, et votre question sera interprétée sur la ligne anglaise. Et ensuite, la réponse vous sera redonnée dans votre langue. Et autre chose, il faut encore ne pas oublier de donner votre nom lorsque vous avez une question. Ceci étant, je crois que nous sommes prêts à commencer pour la séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question ou à la mettre dans le chat. Et je vois que nous avons une question. Alors, encore une petite chose, j'ai oublié de vous mentionner qu'il y a un certain nombre d'autres membres de l'ICG qui sont présents pendant le webinaire et qui donc pourront répondre aux questions si elles s'appliquent à eux. Alors, première question nous vient de Jan Cheng. Est-ce que l'ICG a
identifier certaines incompatibilités et même certains points contradictoires lors de la combinaison des trois propositions. Alors, merci pour cette question. C'est une excellente question en termes de compatibilité. Justement, la compatibilité, c'est quelque chose que nous avons considéré lorsque nous avons rassemblé les propositions. En ce qui concerne la compatibilité, nous avons identifié un point où nous avons eu le sentiment qu'il y avait une incompatibilité éventuelle entre les propositions. Et ce point était lié à la marque de commerce Yana, dans le nom de domaine yana.org. La proposition des numéros détaille un certain nombre d'exigences en termes de propriété intellectuelle, alors que les deux autres propositions étaient silencieuses là-dessus. Et donc, au niveau de l'ICG, nous avons posé la question à toutes les communautés, nous leur avons demandé de confirmer que les propositions n'étaient pas incompatibles du fait des exigences qui étaient définies par une communauté, alors que les autres n'avaient pas défini d'exigences. Et donc, cela a été confirmé par les communautés. Elles nous ont donc confirmé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité. Par contre, les communautés opérationnelles sont en cours de coordination ou de travail ensemble. Elles cherchent à s'assurer d'être bien d'accord sur les mêmes choses. Donc, il y a un travail de coordination en cours. Mais du point de vue de la proposition, nous pensons que les trois propositions sont compatibles. Est-ce qu'il y a d'autres membres de l'ICG qui souhaitent ajouter quelque chose là-dessus? N'hésitez pas. Bon, personne ne prend la parole. Donc, je crois que nous pouvons passer à la question suivante qui nous vient de Zhengli. Allez-y, prenez la parole. Zhengli. Je ne sais pas si vous parlez, mais nous ne vous entendons pas pour l'instant. Nous sommes en train d'essayer d'activer votre micro pour l'instant. Alors, en attendant, y a-t-il d'autres questions peut-être? N'hésitez pas à lever la main sur Adobe Connect ou à taper votre question dans le chat. Y a-t-il d'autres questions pendant que nous sommes en train d'essayer de régler ce problème technique? Alors, j'en vois une de Julie Z. Alors, sa question est la suivante. Merci pour cette présentation détaillée. Je voulais simplement m'assurer de ce que, pourquoi est-ce que Yana est dans le cadre Yakana et dans, pardon, Je voudrais savoir à quoi correspond le fait que Yana soit dans la case ICANN, ainsi que dans les diagrammes sur la proposition des paramètres de protocole et des numéros. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si vous regardez la diapositive, vous voyez que les différentes fonctions sont combinées. Ce que la proposition propose, c'est que toutes les fonctions de Yana résident au sein du PTI, soient prises en charge par le PTI. Donc le PTI, ce serait une filiale de l'ICANN. Les RIR et l'ICANN maintiendraient leur relation avec l'ICANN. Et donc l'administration des fonctions du PTI pourrait être en fait effectuée dans le cadre d'une sous-traitance. Donc voilà pourquoi vous voyez ce petit cadre Yana, parce que les communautés des numéros et des paramètres de protocole continuent d'appeler cela les fonctions Yana. Et elles se trouveraient donc là où l'ICANN le souhaite, donc dans ce cas-là, dans le cadre d'une sous-traitance au PTI. Y a-t-il d'autres personnes de l'ICG qui souhaitent ajouter quelque chose? Alan, ou est-ce que j'ai bien répondu à la question? Alan, au micro. Je crois que vous avez bien répondu à la question, Alissa, mais je vais quand même ajouter quelque chose. Lorsque la proposition a été écrite, le concept du PTI n'existait pas. Donc on parlait des fonctions Yana, qui était au sein de l'ICANN. Lorsque nous avons rassemblé tout ceci avec les autres propositions, avec la proposition du CWG, on s'est rendu compte qu'on avait créé cette entité, ce PTI. Et donc, du point de vue des RIR, je crois que peu importe si un PTI est créé, mais dans le cadre de la transition dans son ensemble, il semblerait que l'ICANN va créer un PTI et que ce PTI va remplir le rôle, et donc c'est pour ceci qu'on a ce petit cadre. Allez, sur le micro. Merci Alan. Donc la question suivante nous vient de Visvac. Est-ce que les changements proposés au processus d'administration de l'Internet vont affecter les utilisateurs finaux d'une manière qui sera perceptible, et si oui, pouvez-vous spécifier à quel type de changement ils peuvent s'attendre? Alors, ce que je dirais, c'est que j'espère vraiment que ce processus ne sera absolument pas perçu. Les registres Yana et leur administration fonctionnent très bien depuis longtemps. Et donc, ce dont nous parlons dans le cadre de la transition, c'est des changements au mécanisme de supervision des fonctions et non pas des changements aux fonctions opérationnelles de l'ANA. Et s'il y a des changements au niveau opérationnel, je crois que la proposition a vraiment fait tout ce qui était possible pour s'assurer que les fonctions soient stables. Donc si nous réussissons dans cette transition, j'espère que les utilisateurs ne percevront aucun changement. Y a-t-il des membres de l'ICG qui souhaitent commenter là-dessus? Alors, autre question du chat et ensuite nous repasserons aux questions audio. Alors, question de Padmini. Est-ce que les différentes entités de supervision IFR, IAB ont une constitution complètement indépendante de celle de l'ICANN ou de l'IETF? C'est une excellente question et je crois en fait que la manière dont on répond à cette question dépend de quelle entité on parle. Donc, par exemple, le conseil sur l'architecture de l'Internet a une relation très étroite avec l'ICANN. Il nomme un membre au conseil de l'administration de l'ICANN, alors que l'IETF est plus indépendant. Donc voilà comment je décrirais ceci par rapport au conseil de l'architecture de l'Internet. Mais en fait, la question, on y répond différemment suivant les différentes entités. Je vais peut-être demander à Patrick de parler de comment cela fonctionnerait dans la communauté des noms. Patrick au micro, merci Alissa. Donc l'IFR et les fonctions Diana ou la fonction de révision des fonctions Diana. Donc, il y a possibilité d'effectuer des révisions périodiques sur les fonctions de l'IANA et c'est quelque chose qui est spécifié dans davantage de détails dans la proposition des noms. Dans la proposition de l'ICG, c'est également spécifié, mais l'IFR et l'IFR spécial seront incorporés dans l'affirmation d'engagement qui donne un mandat pour les statuts. Donc voilà comment la communauté peut superviser les relations entre l'ICANN et l'IFR. J'espère que cela aide à répondre un petit peu plus à la question. Merci Patrick. Nous allons passer à une question audio. Je crois que Sengley a maintenant la possibilité de poser sa question. Je crois qu'il y a toujours des problèmes avec l'audio de Sengley, donc je vais lui demander de poser sa question dans le chat. Il semble que nous avons des problèmes avec l'audio. Alors, la question de Sengley dans le chat, c'est quelles sont les principales entités de parties prenantes internationales permettrait de réaliser une équité maximale. Alors, je ne sais pas si je comprends vraiment cette question, mais nous avons eu des questions par le passé sur l'ampleur des parties prenantes qui sont concernées ou dont les intérêts sont mis en cause par la transition. Et il y a eu différentes parties prenantes qui ont participé au processus de la communauté opérationnelle. Donc, une des questions que nous avons eues, c'est pourquoi est-ce que cette proposition est soumise à consultation publique alors qu'il y a déjà eu énormément de participation par différentes parties prenantes. Et donc, je crois que la réponse à cela, c'est que nous souhaitons avoir un point de vue très large sur le processus de proposition de transition autant que possible. Et donc, c'est pour cela que nous soumettons cette proposition pour consultation publique, de manière à ce que les parties prenantes qui n'ont pas pu être impliquées dans les processus de la communauté opérationnelle puissent avoir une opportunité donc de refléter des points de vue de la communauté plus large qui n'auraient pas encore été pris en compte. Donc, voilà un petit peu l'idée. C'est l'idée de vraiment ouvrir ceci de manière très large. J'espère que cela répond à votre question. Si je n'ai pas bien compris, n'hésitez pas à la reformuler ou à ajouter à votre question, de manière à ce que nous puissions y revenir. Nous passons maintenant à la question suivante de Shailesh. Je ne vais pas prononcer le nom de famille parce que c'est, je pense que je vais faire une erreur. Alors donc, Shailesh demande, comment est-ce que le PTI est différent? En quoi est-ce que le PTI est différent par rapport à l'IANA existant? Et comment est-ce que le conseil d'administration du PTI sera constitué? Alors, je peux peut-être demander à un de nos membres des CG de répondre à cette question. Est-ce que je peux demander à Steve Davidson? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre? Il nous manque l'audio. Apparemment, il y a un problème d'audio avec le micro de Keith. Alors, peut-être que Ralph Mundy peut y répondre. Ce serait bien que les micros des membres de l'ICG soient activés. Est-ce que Keith ou Ralph Mundy peuvent s'exprimer? Est-ce que leur micro fonctionne? Bon, alors en attendant que l'audio fonctionne, je vais répondre à la première partie de la question. Et une fois que j'aurai répondu, on aura peut-être la capacité technique de recevoir la réponse des autres. Donc la première partie de la question, c'est en quoi est-ce que le PTI est différent de l'IANA? Et je crois que, du point de vue pratique, la composition du PTI, en ce qui concerne par exemple le personnel, les données, les ressources impliquées, c'est la même chose que l'IANA. Alors, la proposition, c'est de prendre le département IANA qui existe actuellement au sein de l'ICANN et de le transférer au PTI. Donc, du point de vue opérationnel, en termes d'attente, il ne devrait pas y avoir de changement du personnel. Alors, la différence, c'est que maintenant, il s'agit d'une filiale de l'ICANN. Ce ne sera plus donc un département interne à l'ICANN, mais ce sera... Comment dire? Une entité, en fait, séparée du point de vue juridique de l'ICANN, une filiale. Et donc, cela a des implications, bien sûr, puisqu'il y aura un conseil séparé, un budget séparé, etc. Donc, ça, c'est la première partie de la question. Est-ce que maintenant, il y a des personnes qui peuvent s'exprimer par audio pour répondre au reste de la question. Patrick Forstrand au micro, je peux répondre à la question du conseil d'administration. Donc le PTI, comme vous l'avez dit, être une entité séparée du point de vue juridique. Il aura un conseil d'administration et une responsabilité statutaire et des pouvoirs spécifiques. La structure du conseil d'administration, ce sera en fait des personnes qui seront nommées par l'ICANN, qui finalement contrôlera le PTI. Le conseil d'administration pourrait par exemple être composé de 3 membres employés par l'ICANN ou le PTI et 2 autres membres qui sont indépendants et qui sont nommés par exemple par le NAMCOM de l'ICANN. Donc c'est quelque chose qui doit être une structure légère, très légère. Le conseil d'administration doit en fait refléter la complexité du système, mais l'IFR, c'est l'entité externe qui supervise la relation entre le PTI et l'ICANN. Merci. Merci Patrick. Alissa au micro. Alors, passons maintenant à la question suivante de Tijani Benjema. La question, est-ce que le CRISPR et l'IETF acceptent le fait qu'il y ait une séparation juridique entre l'ICANN et le PTI? Est-ce que cela correspond à la séparabilité proposée par le CWG? Alors, je vais commencer par répondre à la question et ensuite, je passerai la parole à Alan pour le point de vue CRISP. Alors, du point de vue de l'IETF, encore une fois, l'IETF a l'intention de garder les dispositions actuelles avec l'ICANN et d'utiliser la sous-traitance du PTI comme en fait le choix de l'ICANN par rapport aux fonctions. Donc, à la base, l'IETF dit, nous laissons l'ICANN décider de comment est-ce que ces fonctions seront effectuées. Si l'ICANN choisit de constituer un PTI, très bien. Ceci devra simplement correspondre au MOU et il y aura également la convention de service. Alors, Alan, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose du point de vue des numéros? Merci, Alissa. Alan au micro. Donc, notre intention, c'est d'avoir un contrat, une convention de service avec l'ICANN et nous laisserons l'ICANN sous-traiter les opérations au PTI, mais la responsabilité de s'assurer des conditions, eh bien, ce sera gouverné par le contrat que nous avons avec l'ICANN directement. J'espère que cela répond à la question. Nous n'avons pas d'objection par rapport à la création de cette filiale, ce PTI, mais nous ne souhaitons pas avoir un contrat direct avec. Allez, sur le micro. Merci, Alan. Alors, la question suivante. Pour clarifier, donc le MOU existe avec l'ICANN ou avec le PTI? Alors, actuellement, est-ce qu'il y aura d'autres MOU qui vont être mis en place? Je pense qu'on vient de répondre en fait à cette question et j'espère que l'IETF donc et les RIR continueront d'avoir ce lien avec l'ICANN et donc c'est l'ICANN qui va s'occuper de la sous-traitance au PTI. Donc je pense que nous avons déjà répondu à cette question. La question suivante vient de M. Matt Borough. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la possession de la marque de commerce de l'IANA et le domaine qui devra être transféré au Trust IETF? Donc, je parle de la diapositive numéro 23. Alors, encore une fois,
Je vais passer la parole à Alan. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, je vais lui demander d'en parler un petit peu plus. Merci, Alissa. Alan Barrett à nouveau au micro. Donc, la première chose en termes de proposition de numéro, l'IANA DTR, c'est-à-dire la marque de commerce, le nom de domaine, et puis il peut y avoir d'autres choses. Tout ceci pourrait être dans le cadre d'une entité. Donc vous voyez que l'ICANN donc, même si le PTI est l'opérateur, donc ce qui est important, c'est aussi de considérer la proposition CRISP, donc, qui est détenue par des organismes séparés. Le Trust IETF, l'interprète s'excuse, l'audio n'est pas très clair. Donc, il faut encore que les communautés opérationnelles se mettent d'accord là-dessus. Il y a certaines questions qui n'ont pas encore été solutionnées par rapport à la marque de commerce. Ce qui va se passer n'est pas encore entièrement défini. J'espère que cela répond à la question. Merci Alan. Donc la question suivante, Jenglet. Donc pour l'instant, les États-Unis ont beaucoup trop de contrôle et d'influence sur Internet. Donc en quoi est-ce que le transfert de la transition de la supervision IANA pourra améliorer l'équité? Jean-Jacques au micro. Si j'ai bien compris, cette question est liée à votre question précédente. Deux commentaires. Tout d'abord, lorsque vous parlez de la situation actuelle, donc avec l'application du gouvernement américain, la NTIA, vous pensez qu'il y a trop de contrôle. Ceci s'explique par l'historique, parce que l'Internet a été créé aux États-Unis. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en fait la poursuite d'une situation historique. La deuxième partie de la question, c'est la transition de la supervision IANA, des fonctions IANA. Comment est-ce que cela peut être fait de manière juste, équitable? Donc, on ne peut pas répondre à cette question sans parler du rôle des gouvernements, et je dirais que, dans un sens, l'ICG est composé également de certains membres du GAC. Donc, le GAC, c'est une entité de représentation des gouvernements. Donc il y a des personnes qui représentent par exemple le Japon, etc. Donc voilà une des manières d'assurer une représentation des différents pays. Et un autre moyen que nous avons à l'avenir pour les structures après IANA, il sera intéressant de voir qui présente quel candidat. Pour des choses telles que, par exemple, le conseil d'administration du PTI. Donc, il y a des membres qui peuvent être nommés à ce poste. Et puis, également, au poste de supervision des fonctions. Donc, ma réponse, pour faire bref, est que, oui, il existe la situation historique, qui se comprend. Et deuxièmement, les choses
sont en phase de changement. Et c'est dans ce contexte que la proposition de l'ICG, qui est donc composée de propositions fournies par les différentes communautés, en est arrivée à ce point-là. Mohamed, au micro. Merci Jean-Jacques. J'aimerais rajouter quelque chose. Le modèle multipartite est un modèle qui assure justement un maximum d'équité. C'est quelque chose d'important parce que les différentes parties prenantes, que ce soit les gouvernements ou le secteur privé ou les utilisateurs finaux, donc ont tous un rôle à jouer et tous participent à ce processus et continueront de le faire à l'avenir. Merci. Alice, au micro. Merci Mohamed et Jean-Jacques pour vos réponses. La question suivante. Est-ce que le PTI est uniquement en lien avec les RIR et l'ICANN ou est-ce que il va également répondre aux entités gouvernementales? Donc, est-ce que le PTI est uniquement en lien en termes de responsabilité avec les RIR et l'ICANN ou est-ce qu'il va avoir un lieu géographique aux États-Unis? Et est-ce qu'il y aura interférence de la part de certains organes gouvernementaux? Alors, Lynn va répondre à la question. Lynn au micro. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? Je n'ai pas bien entendu. Alors, la question, c'est est-ce que le PTI est uniquement... a uniquement un lien de responsabilité par rapport, uniquement redevable, au RIR et à l'ICANN, ou est-ce que sa situation géographique aux États-Unis l'ouvre à une interférence d'organes gouvernementaux? Je crois que la question de la responsabilité dans le PTI ne change pas la relation passée. Donc, les gouvernements, en fait, le GAC au sein de l'ICANN, vont toujours exprimer leurs préoccupations, leurs considérations. Donc cela n'a pas nécessairement d'impact. L'IETF et la communauté des numéros ont réellement l'intention de continuer d'être en lien avec l'ICANN qui détient le contrat au niveau journalier, donc les fonctions auront lieu au sein du PTI. Merci. Ben. Daniel Karenberg, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose? Pas d'audio de Daniel, d'accord. Jean-Jacques, peut-être? Si vous souhaitez ajouter quelque chose? Jean-Jacques au micro. Merci, Alissa. Je crois que la question est une question de juridiction. Donc, après, intervention progressive. Il y a une question de juridiction, à savoir quelles sont les lois qui s'appliquent. L'interprète s'excuse, nous avons eu des problèmes audio. Merci Jean-Jacques. Russ, Mandy, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Lynn, peut-être? Lynn, au micro. Oui, je voulais commenter là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné et il faut bien comprendre quelque chose. À un niveau, il n'y a pas beaucoup de choses. À un certain niveau, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Simplement, le gouvernement américain va disparaître. Et la supervision dont le monde se préoccupe se passe au niveau de la communauté opérationnelle et la plupart des processus vont rester les mêmes. Et ils vont rester basés sur le consensus. Que ce soit dans le domaine de développement de politique, que ce soit dans le domaine du soutien, ou dans le domaine de l'application des politiques qui existent, je crois que la question de la juridiction ne prend pas vraiment en compte les différents rôles dans la communauté opérationnelle. Et pendant des années, il a fallu clarifier les choses à ce niveau-là. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les politiques, la supervision. Et ce qui est important, c'est l'équité dans l'expression des points de vue. Désolée, l'interprète s'excuse, mais nous entendons très très mal. Allez, sans micro. Merci, Lynn. J'apprécie votre intervention, c'est très utile. Alors, la question suivante de Tijani Benjema. Je comprends, d'après la réponse, que vous, donc les protocoles et les numéros, vous n'avez pas de problème par rapport au fait que le PTI soit séparé structurellement de l'ICANN, étant donné que cette option est envisagée par le CWG. Donc, il est vrai que les communautés des numéros et des protocoles n'ont pas de problème par rapport à cette séparation. Je crois que c'est tout à fait exact. Donc, merci de confirmer. Vous avez raison. La question suivante, parce que je ne vois personne d'autre, ce sujet, et il y a donc la question de Alain Bidon. Est-ce que le SLA, donc la convention de service entre les RIR et l'ICANN, seront un seul accord, ou alors est-ce qu'il y aura 5 accords individuels, un par RIR, avec un contenu identique? Ah, Alain Barek, au micro, je vais répondre à cette question. Donc l'idée, c'est qu'il y aura un seul accord qui sera signé d'un côté par l'ICANN, de l'autre côté par les 5 RIR. Donc 6 signatures au total, les 5 RIR et l'ICANN. La convention de service a été publiée hier, je crois, c'était peut-être même avant. Et donc si vous allez sur le site web, vous avez donc un rapport sur cette convention de service. Merci Alan. Allez, sans micro. Et je crois que ceci nous amène à la fin de notre séance de questions-réponses. Il nous reste quelques minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, eh bien, écrivez-les dans le chat ou levez la main. N'hésitez pas à poser vos questions de dernière minute. Je vois quelques personnes qui tapent. Donc nous allons attendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Alors, je vois une nouvelle question dans le chat. La question nous vient de Asha Emrajani. Est-ce qu'il y a eu une analyse des pour et des contre ainsi que des risques qui a été effectuée donc sur le transfert de la marque de commerce Yana au trust IETF? Donc, on va demander à l'IETF de nous donner un petit peu un historique. Et ensuite, on aura le point de vue d'Alan du point de vue des numéros. Donc, du point de vue de l'IETF, l'ICG a demandé à l'IETF d'appuyer la proposition qui avait été proposée par la communauté des numéros. Cela contenait donc la question du trust IETF, et donc la question c'était est-ce que le trust IETF souhaitait donc détenir cette marque de commerce, et donc le trust IETF a confirmé qu'il était prêt à le faire. Donc ceci a été fait. La communauté IETF a également beaucoup parlé de cette question, dans l'élaboration de leur proposition, et n'a pas détailler ceci dans sa proposition, mais a ensuite dit qu'ils étaient prêts à le faire. Et je dois dire que ce n'était pas nécessairement une conclusion officielle, parce que le Trust IETF est composé d'un certain nombre de membres qui ont certaines responsabilités. Donc, il va falloir qu'ils entrent en consultation pour savoir s'ils sont prêts à prendre ceci en charge. Mais d'une manière générale, la réponse a été positive. Alan, est-ce que vous souhaitez nous donner le point de vue de la communauté des numéros? Alan Barrett, au micro. Donc, le CWG a demandé à un cabinet d'avocats de faire une analyse, et donc leur analyse a été publiée la semaine dernière, je crois. Les RIR n'ont pas répondu à cette analyse de manière officielle, mais je pense que nous allons le faire. Je ne peux pas donner davantage de détails, par contre, là-dessus. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il existe certaines difficultés, et il y a d'autres membres de la communauté qui considèrent qu'il y a des difficultés, donc voilà où nous en sommes. Alissa, au micro. Alan, vous pouvez peut-être nous dire quelle a été l'analyse du point de vue des numéros. C'est là-dessus que je souhaitais que vous vous exprimiez. Alan, au micro. Oui, je peux vous donner quelques informations là-dessus. L'IPR Yana, de notre point de vue, en ce qui concerne la communauté des numéros, et nous avons travaillé avec l'équipe CRISP, donc l'idée c'est que la marque de commerce Yana et le nom de domaine Yana sont associés avec toutes les fonctions Yana, c'est-à-dire les noms, les numéros et les paramètres de protocole, de manière conjointe. Ce n'est pas simplement un sous-ensemble des fonctions Yana, parce que les différentes communautés opérationnelles pourront éventuellement changer d'opérateur. Et donc, à l'avenir, l'ICANN pourra ne plus être l'opérateur. Donc, notre sentiment, c'était qu'il fallait s'assurer que la propriété intellectuelle ne soit pas associée avec les opérateurs des fonctions IANA. Ceci permet donc de garantir l'avenir en cas de transition à un nouvel opérateur. Mais pour l'instant, nous sommes tout à fait satisfaits avec l'ICANN comme opérateur des fonctions IANA. Mais bon, dans un avenir plus ou moins proche, il est tout à fait possible que les fonctions soient retirées de l'ICANN, et donc à ce moment-là, qu'en termes de propriété intellectuelle, il était important d'être une entité adaptée parce qu'il est il a un historique de supervision des entités de propriété intellectuelle et des marques de commerce. Ils ont la marque de commerce IETF et d'autres, je crois. Est-ce que c'est ce que vous recherchiez? Allez, ça, merci, oui. Il y a une analyse juridique qui a été faite, donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, par la communauté pour mettre au point la proposition de transition. Et donc ceci a été publié, ou sur la proposition de transition, pardon, ceci a été publié il y a quelques jours. Et donc la communauté des numéros est toujours en cours d'analyse de ce qui a été publié. Donc il y a davantage de travail qui doit être fait par rapport à cette question de la propriété intellectuelle de la marque de commerce IANA. Alors je crois que nous en sommes à la fin du temps qui nous avait été alloué. Il y a encore une question qui avait été posée avant que nous terminions. C'est une question de Tijani. Sinon, nous terminerons. Donc on demande aux interprètes de continuer d'interpréter encore pendant quelques minutes pour terminer cette dernière question de Tijani. Donc, la question de Tijani est la suivante. Désolé, le CWG propose non seulement une séparation juridique, mais une séparation totale au cas où la communauté des noms trouve que cela est nécessaire. Est-ce que cela est positif? Les communautés des numéros et des protocoles sont d'accord? Ce que je dirais, encore une fois, c'est que chacune des communautés a une fonctionnalité selon laquelle, à laquelle vous faites référence. Chacune des communautés, de manière indépendante, a établit ses propres mécanismes de responsabilité et donc la capacité à passer à un autre opérateur des fonctions IANA, le cas échéant. Et donc, non seulement ceci fait partie de la proposition du CWG, mais aussi des autres mécanismes de responsabilité que chacune des communautés a intégrés à ses propositions. Et donc, je ne pense pas que cela soit nécessairement explicite dans les propositions en elles-mêmes, mais le fait que chaque communauté pense avoir les moyens en cas de séparation, eh bien, je crois que les communautés sont prêtes